In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Bienvenue dans ce 137e épisode qui va donner la parole à une autrice et à un auteur qui viennent de publier cet automne chacun un nouveau roman. Elles et ils n'en sont pas à leur coup d'essai et l'inflation de publication au niveau national ne les perturbe pas. Elles et ils n'auront pas les honneurs des grands médias nationaux. Et puis après, elles et ils sont comme des milliers d'autres qui passent hors de leur radar au spectre tellement resserré qu'ils en sont presque aveugles. Parce que pour ces auteurs, ce n'est pas au niveau des médias que cela se joue. Et justement, c'est cette question que nous allons tenter d'explorer avec eux aujourd'hui. Bonjour Catherine Manard.
Bonjour Luc.
Bonjour Patrice Véry.
Bonjour Luc.
Catherine Manard, vous étiez déjà venue dans l'émission il y a presque 2 ans et vous publiez un nouveau roman, Élu domicile, encore une fois aux éditions Le Petit Pavé. Alors déjà le titre, je dois vous dire que j'ai du mal à le comprendre. Élu domicile, syntaxiquement, grammaticalement, ça semble être erroné. Est-ce qu'il est possible d'expliquer ce titre sans divulgâcher ?
Très bien. Bah écoutez, vous m'attrapez déjà par le titre qui, normalement, se veut attractif. Je peux dire que j'ai prélevé le participe passé. J'ai élu domicile à Radio G ce soir pour l'émission Entre les pages. Il se trouve que c'est une formule notariale aussi. Quand on va rechercher dans les documents que vous fait signer le notaire au moment où vous achetez une maison, puisqu'il va s'agir de l'achat d'une maison, j'avais d'ailleurs le document que je n'ai pas apporté là, qui stipule
qui certifie que vous
élection
avez
élection de domicile. Si je l'ai bien.
L'élection de domicile.
Voilà. L'élection de domicile.
Alors, je suis d'accord. Mais avec le titre élu domicile, il manque le G. J'ai élu domicile. Voilà. Élu domicile comme ça, quand on lit sur une table de libraire, on se dit
c'est bizarre.
Quoi. Donc vous avez expliqué, vous certifiez que vous êtes appuyé sur des documents juridiques qui attestent que votre formulation est exacte. Et vous n'avez rien divulgué, puisque de toute façon, il pourrait y avoir divulgachage si jamais on expliquait le élu domicile.
Oui, il ne faut pas aller trop loin.
On ne révélera rien. Je ne révélera rien.
Mais ça peut être... D'abord, grammaticalement, c'est correct. Et puis justement, il y avait un côté interpellant. Quoi, hein,
c'est réussi.
Juste
c'est
le
réussi.
Participe passé.
C'est réussi. Donc, élu domicile, à nouveau, ça parle de quoi ? Élu domicile.
Alors, ça parle du désir de Constance, qui est une jeune femme d'une quarantaine d'années, qui travaille dans un musée des Beaux-Arts, qui est médiatrice culturelle, qui vient de se séparer de son compagnon depuis quelques mois. Elle a une petite fille de 8 ans et elle a toujours rêvé de quitter l'appartement dans lequel elle est locataire pour acheter une maison, de préférence une maison ancienne. Et une de ses amies, qui habite sur les bords du Louette, puisque l'histoire se passe en Maine-et-Loire, lui signale, au cours de ses promenades, la présence d'une maison sur les quais, avec vue sur la rivière, entourée de falaises. Il y a un panneau qui est disposé sur la barrière, sur la grille. Et tout de suite, cet ami qui la connaît bien lui dit « Écoute, je ne vois personne dans cette maison, il y a un panneau qui vient d'être mis, je pense que c'est pour toi, il faut absolument que tu visites cette maison. »
Alors, On est avec une femme qui veut habiter quelque part. Quelqu'un lui dit « il y a une maison ». On est au bord du Loué, donc on est malgré tout pas très très loin d'Angers. Hein. On peut dire du côté de Juigné, enfin on est dans ce secteur-là. Alors cette idée-là, parce qu'elle va aller loin, cette idée, elle est venue d'où ?
Alors elle est venue d'une... on puise toujours dans sa propre autobiographie. Elle est venue d'une, je dirais, d'une anecdote au départ, puisque... une jeune amie, un jour, me téléphone et me dit bah, « Écoute, voilà, je ne sais pas si tu étais au courant, mais je cherchais à acheter une maison. Je viens d'en trouver une. Et comme je sais que tu as fait des travaux chez toi, je suis à la recherche d'un maçon, d'un menuisier, si éventuellement tu connais ce genre d'artisan. Et puis, comme quand même, il va y avoir pas mal de travaux à l'intérieur de la maison, des transformations, est-ce que dans tes relations, tu connaîtrais un architecte ?» J'ai dit, bah, écoute, oui, j'ai fait des travaux il y a quelques années. Je suis d'ailleurs restée en lien avec cet architecte. Ça pourrait être bien que tu commences par la rencontrer, elle. Voilà. Et elle m'invite d'abord à aller voir la maison. Et après, c'est parti d'un déclic. Je visite la maison dans laquelle il se trouve des objets, des meubles qui n'ont pas été déménagés. Et pour moi, après, je m'éloigne un peu de l'histoire de cette jeune femme qui dans la vie réelle, n'est pas du tout médiatrice culturelle. Mais le déclic s'est opéré au moment où je me balade dans la maison, je vois les objets et du coup je fais une association d'idées sur ce vers quoi ça me renvoie.
Donc ce que vous nous dites là, c'est que, en tout cas pour vous, un roman, puisqu'il s'agit d'un roman, ça part du vécu, quoi.
En tous les cas, pour moi, je pense inévitable de ne pas puiser dans un matériau personnel. Mais souvent, à partir de ce matériau, moi, ce qui m'intéresse, c'est le décalage, le pas de côté, de partir vers la fiction. Parce que dans cette histoire, comme vous avez pu lire le livre, il y a beaucoup de faits dont je me suis inspirée à partir de l'observation des lieux. Mais après, c'est l'imaginaire qui prend le relais. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce travail que la fiction va me permettre de faire pour boucher les trous et les nourrir et les augmenter.
J'entends bien. Donc là, vous avez... vous visitez cette maison. Vous êtes... Alors, je ne vais pas dire vous la visitez. Vous êtes dans cette maison. Vous observez. En observant, tout d'un coup, il y a des choses qui commencent à surgir. Vous commencez à vous raconter votre propre histoire, en fait. Ça commence comme ça, j'imagine. Il y a une constance.
Constance. Le prénom de la jeune femme.
De la jeune femme, ouais, de la narratrice.
Oui, tout à fait.
Constance, elle est séparée de son compagnon. La garde de l'enfant est partagée.
Oui.
Elle a des parents dont elle a ras-le-bol.
Oui.
Hein, on peut dire ça, hein,
oui,
ras-le-bol.
Tout à fait.
Hein, vraiment.
Ils sont pas un très peu... aidants dans l'affaire.
Non, ils ne sont pas très aidants. Ils sont des parents, quoi, en fait. est-ce qu'il est important, est-ce que ces éléments de vie, de constance, est-ce que c'est important de les construire pour donner de la profondeur au personnage ?
Alors oui, je dirais à la fois de vous dites de la profondeur, je rajouterais de la densité. Et de la vraisemblance. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, quand à chaque fois que je travaille un roman, j'ai une pensée un petit peu systémique, c'est-à-dire que je vais penser, j'écris au kilomètre, hein, je ne sais pas comment ça va finir, mais je pense système, c'est-à-dire personnages les uns par rapport aux autres. Et entre autres, les personnages principaux, c'est intéressant quand ils sont un peu ambivalents, quand il y a des failles. Pour qu'il y ait des failles, il faut qu'il y ait des contradictions, il faut qu'il y ait des hésitations. On va voir d'ailleurs qu'acheter une maison, c'est lourd de conséquences. Hein. On hésite, il va y avoir des contraintes budgétaires, des contraintes aussi liées aux histoires de diagnostics gouvernementaux, etc. Et chaque personnage est inscrit dans sa propre histoire familiale. Et alors, c'est très bien parce que pour Constance, je lui fais une mère un peu pénible et qui trouve que ce projet est complètement déraisonnable, ce qui me permet, moi, d'installer des tensions. Et comme ça, le roman va être jalonné d'un champ de tensions qui vont être variées, pas que portées seulement sur les parents, mais la petite fille, par exemple, elle n'est pas très chaude pour les vieilles maisons. Quoi.
On la comprend. Enfin, moi, je la comprends. Mes parents m'auraient dit, on va habiter dans une maison et la première visite, c'est les pieds dans l'eau. Je crois que je n'aurais pas été forcément enthousiaste. Quoi. Cette Constance, qui est la narratrice,
oui.
Vous avez quand même éprouvé le besoin de nous faire pénétrer plus encore dans sa tête. Et ça, vous l'avez formalisé par des passages en italique. Alors pourquoi cette option-là ? Pourquoi pas la continuation du récit avec les pensées ? Pourquoi formaliser ces moments-là ?
Oui, alors je dirais qu'il y a deux scènes constantes, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur, une narratrice, l'histoire se déroule à la troisième personne, et par moment, pour accuser plus avant les hésitations de Constance, je décide de partir dans sa tête, quoi, hein, comme on le fait souvent nous-mêmes dans notre propre vie. Et tout d'un coup, je décide de jalonner tout le processus d'écriture de monologue au tu, c'est-à-dire Constance se parle au tu. Mm-hmm. Et le contenu de tous ces passages-là sont les contenus de l'intimité, quoi, hein, mm-hmm. et du doute et du désir. On est plus là dans les sentiments, quoi, grâce à cette autre forme littéraire.
Donc, déjà, tout ce que vous nous avez dit, on entend bien qu'il y a une construction.
Oui.
Je vais pas prendre une image de jeu d'enfant pour illustrer, mais on entend bien qu'il y a une intention, il y a une construction qui n'est pas le produit du hasard, même si vous dites à un moment donné, vous écrivez au kilomètre, mais ce n'est pas le produit du hasard, mmh. C'est vraiment le produit d'intentions successives. Autre point, dans votre précédent roman, donc Un cheval bleu sur l'horizon, il était déjà question de peinture.
Oui.
Dans Élu domicile, c'est Paul Klee qui est à l'honneur.
Oui, oui.
C'est tellement Paul Klee que vous faites figurer un de ses tableaux sur la couverture. Alors, pas de divulgachage, bien entendu, mais il y a quand même un tableau de Paul Klee sur la couverture. Ouais. Pouvez-nous décrire ce tableau ?
Alors, ce tableau, dans l'œuvre de Klee, il s'intitule « Ad Parnassum », c'est-à-dire il symbolisait pour Klee, dans sa recherche, il a beaucoup peint des maisons, hein, Paul Klee, dans sa quête et sa recherche de... un peu, qui semble un peu pointilliste, hein, même si Klee n'est pas un peintre pointilliste.
Non.
Mais ses recherches de vibrations de couleurs, là, il peint cette maison qui est aussi un peu pyramidale. Il y a un écho avec les pyramides, d'ailleurs, égyptiennes.
Mm-hmm.
Il y a le soleil. Et pour lui, il a appelé ça de Parnassum, c'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas en train d'atteindre le mont Parnasse, hein, qui mm-hmm. était... Le mont qui se trouvait, qui rassemblait les muses, hein, donc mmh. un symbole aussi de création. Et bon, je trouvais que ça pouvait faire écho à la maison que recherche Constance.
On est dans le sujet, au cœur du sujet. Hein.
Voilà.
On est au cœur du sujet.
Le tableau est lui-même un peu flottant, donc cette maison, elle est au bord de l'eau, donc il y a une espèce d'écho entre les deux. Et puis, il se trouve que Constance travaille au Musée des Beaux-Arts. Donc, mmh.
Donc
une conjonction, là.
À nouveau, de la construction, l'objet choisi n'est pas le fruit du hasard. En tout cas, il s'inscrit complètement dans le roman. Vous pourriez nous lire un extrait de ce roman, s'il vous plaît ?
Alors, ben, je vais vous lire le début. C'est sans doute plus facile pour les auditeurs. Donc, premier chapitre, maison à vendre. Ce soir d'automne, c'était le 23 novembre, alors qu'un soleil orangé déclinait dans le ciel, elle signait l'offre d'acquisition pour la maison des Roches, convaincue que c'était folie. Chambre avec vue. Les fenêtres ouvriraient sur la rivière en toute saison, fenêtres se penchant sur des soirs tranquilles, palpitant de chants d'oiseaux à la minute où les soleils avalés glissent goulûment sur le roulis des eaux. Un palmier épanoui, côté sud, rivaliserait avec un mimosa touffu et près d'un mur, un daphné. Elle l'avait remarqué, promettait déjà ses fleurs pour janvier prochain auprès de trois arbustes têtus, laurier du Portugal panaché, viorne et camélia, rythmant la façade de leur feuillage persistant. Constance rêvait depuis de longues années d'une maison en bord de fleuve ou de rivière, Une maison où la beauté s'épanouirait pleinement dans cet espace insolite, entre une falaise et l'eau. Son amie Lucie lui avait déniché la perle rare. Elle se plaisait à le lui répéter et Constance lui en était redevable.
Voilà, ça donne un peu une... Déjà, ça donne deux idées. Hein. L'idée un peu de votre manière d'écrire, ça met en forme tout de suite parce que on est à un endroit de l'histoire, même si c'est le début du livre, on est à un endroit de l'histoire particulier. Alors, dernier point de cette conversation, vous n'êtes pas dénué d'humour. Hein, y a beaucoup d'émotions dans votre livre, mais vous n'êtes pas dénué d'humour et vous semblez avoir pris beaucoup de plaisir à décrire le monde des agences immobilières. Hein ?
Oui, alors vous avez bien repéré cela. Ce qui m'intéresse souvent, je l'ai fait déjà dans mes autres romans, c'est de pénétrer des univers linguistiques différents. Bon, là, il se trouve que assez souvent, quand on achète une maison, on peut passer par une agence, enfin, ou on passe directement avec le propriétaire ou avec le bon coin. Mais là, je trouvais intéressant de mettre sur la scène un agent immobilier qui, bien sûr, rassemble tous les
agents immobiliers du monde.
Presque.
Hein, la maison est dans son jus.
Exactement.
Hein, elle doit être dans son jus.
Et hein. Elle a un beau potentiel.
Et elle a un potentiel, bien entendu. Eh bien, écoutez, Catherine Malard, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale.
J'ai vendu au diable, aux lisières de mon passé. Tes yeux, ton corps de femme, paupières et la fumée. J'ai rendu mon cœur coupable, la colère des années passées. Mes yeux, mon corps de femme, ma foi sur le bûcher. Fumant sous la vapeur et le vent, ton corps défiant tous mes soupirs brûlants. Loin des avis, loin des regards trop puissants, je t'offrirai les roses et le temps. J'ai vendu mon cœur au diable.
Vous venez d'écouter Michel et les garçons, Cœur au diable. Vous êtes bien sûr Radio G. Vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, j'accueille dans le studio une romancière et un romancier. Après avoir entendu Catherine Mallard, au tour de Patrice Véry de passer à la question. Bonjour Patrice Véry.
Bonjour Luc.
Nous nous étions rencontrés il y a exactement 3 ans pour votre gros roman « Ce qui grignotait le fond de l'univers ».
Exact.
Et là, vous sortez un nouveau roman, « Caraïbes Force 15 ». C'est un roman assez étrange, puisqu'il me semble que vous suivez 3 chemins. L'aventure, la science-fiction et le roman d'action, moi j'aurais dit à la OSS 117. Pourquoi cette complexité ?
En fait, ce roman est un huis clos, puisque se déroule finalement quasiment entièrement sur une île. Et c'est les relations entre les divers personnages, et il y en a beaucoup, qui vont petit à petit faire monter la tension et transformer peut-être ce qui est au départ un roman assez psychologique, un couple qui essaye de se reconstruire, en un roman d'action. Et même si les personnages ne sont pas au départ tous violents, le contexte étrange, donc là on revient à la science-fiction, va exacerber les passions et les tensions.
Alors, les personnages ne sont pas tous violents, ça j'aimerais bien. Pourtant, j'ai lu l'intégralité du roman. Il me semble qu'ils sont beaucoup violents,
très violents.
Très, très violent.
Pour certains, oui.
Il y a vraiment des méchants méchants et les gentils, ils sont violents. Que ce soit Victor dans son fauteuil roulant ou Ombeline, c'est des anciens flics qui ont été confrontés à l'action. Quoi, hein.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, oui. Mais disons que leur exil sur cette île ne les avait pas prédisposés à de nouvelles violences. Ils y sont plus ou moins contraints parce qu'ils doivent se défendre à la fois contre les éléments et contre ce commando qui débarque.
Un commandant de mercenaires. Hein.
De mercenaires.
Parce que là, cette fois-ci, vous n'y allez pas de main morte. Hein.
Non.
Révolution au Venezuela, allez, en avant. Et un commandant de mercenaires qui décide d'envahir l'île de Mara El Loco.
El Mar Loco.
El Mar Loco.
Ce qui veut dire en espagnol la mer folle.
Voilà. Et donc, le commando de mercenaires débarque. Alors, en plus, vous ménagez le suspense, puisque... alors, il y a les couches de suspense avec vous, il y en a. Hein. La préparation de ces mercenaires à la Révolution. L'autre suspense, c'est pourquoi ces événements se déroulent.
Voilà.
Et là, je dis rien.
Ben non.
Hein, je dis rien, d'accord. Hein.
Ben non,
je ne révèle rien, mais il y a des événements et ils ont une raison d'être.
Oui.
Et il y a un compte à rebours.
Absolument.
Voilà. Donc, bon, j'ai bien compris le livre. En fait, j'ai bien compris le livre. Je ne suis pas mécontent de moi. Cette histoire. Alors, un flic qui s'est fait flinguer, qui est en fauteuil roulant. Des mercenaires qui fomentent ou qui vont aider des révolutionnaires au Venezuela. Plus de la science-fiction. Là, l'idée, elle est partie d'où, là ? Ça vient d'où, cette idée-là ?
Voilà. Bon, si je commence à raconter la genèse de ce roman, on n'est pas sorti, mais je vais résumer.
Oui,
au départ, en 1997, il y a eu une longue nouvelle qui s'appelait « Chair obscure », qui n'a jamais été publiée, et qui racontait dans le détail l'histoire de cette enquête qui est évoquée dans le roman. En fait, on n'a pas besoin d'avoir lu cette enquête pour comprendre. Et à la fin donc, de cette histoire où le couple résolvait... Les méchants étaient sous les verrous, on va dire, hein, pour simplifier. Mais ça s'était mal terminé. À la suite d'une fusillade, donc, Victor était paralysé et sa femme s'était vengée contre l'un des suspects au mépris de toute déontologie.
Violemment.
Ouais, voilà.
Parce que vous dites qu'il n'y a pas de violence, mais violemment.
Oui, mais violemment. Oui.
Voilà. C'est pas raconté, mais on le sait.
Oui, voilà.
Elle culpabilise à mort, tout ça. Voilà. Oh là là, elle s'en remet pas. Hein.
Et quand j'ai eu terminé d'écrire cette longue nouvelle... Il y avait une lueur d'espoir dans une île, justement. Je voulais faire un petit truc un peu romantique, malgré tout. Et je me suis dit, mais ces deux personnages-là, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Je n'avais pas envie de raconter la suite de l'histoire, j'avais envie de raconter la suite de leur vie. Comment un jeune couple, parce qu'ils sont quand même relativement jeunes, dont le mari est paralysé, donc impuissant, qu'est-ce qui leur advient ? Comment est-ce qu'ils vivent ça, etc. Et bien entendu, comme je ne me refais pas, j'ai placé ça dans un contexte un peu tendu et avec un peu de science-fiction aussi.
Mmh. Alors, la science prend une part importante dans ce roman. Bien que de science-fiction, qui pourrait suggérer la science-fiction que ce soit improbable. Mais il y a aussi de l'avéré chez vous, à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas des lubies comme ça, une invention comme ça, de machin truc. Pour vous, c'est un plaisir de vous frotter à la science dans une fiction ?
Ah oui, oui, c'est vrai que c'est un plaisir, parce que d'abord, j'aime bien la science dans la vie réelle, quoi. J'aime bien l'astronomie, j'aime bien l'astrophysique, je me documente là-dessus. Et donc, fatalement, ça influence mes écritures. Ça permet aussi d'avoir un pied dans la réalité. Puisque quand on parle de choses scientifiques réelles, on a un ancrage dans la réalité, même si après on délire complètement, parce que évidemment, le reste n'est pas possible dans l'état actuel de nos connaissances. Voilà, c'est...
Ah, c'est pas possible, vous, quand même.
Alors là, dans l'état actuel de nos connaissances.
Là, je vais me la jouer complètement. vous abordez la théorie des fluctuations quantiques. Oui. Autrement dit, le principe d'incertitude d'Heisenberg.
Oui.
C'est bon, hein, ça.
Oui, bah,
ouais. Voilà. Alors, donc, illustré par le chat de Schrödinger.
Alors, en quelques mots, le chat de Schrödinger, c'était une expérience de pensée créé par Schrödinger, qui, à l'époque, pensait que la physique quantique était quelque chose de complètement impossible. Et donc, il avait fait cette expérience de pensée en disant « Vous mettez un chat dans une boîte où il y a un gaz qui peut ou pas être mortel en fonction de la désintégration d'un atome. Comme d'après votre physique quantique, cette désintégration, elle est faite et n'est pas faite en même temps, ça veut dire que votre chat, il est mort et vivant. Et tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne le sait pas. » Sauf qu'on sait maintenant que ce qui est réel au niveau des particules ne l'est pas au niveau des individus.
Voilà. Alors, c'est pour ça, si j'insiste là-dessus, alors ça peut paraître abscon comme ça, comme discussion, ça me permet, moi, de jouer les scientifiques à deux balles, mais quand même, parce que j'ai re-révisé mon chat de Schrödinger, quand même. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ça, c'est une des clés du roman, les fluctuations quantiques. Je donne... si je l'ai bien
oui,
lu,
si on veut, disons que c'est...
Elles apparaissent, les fluctuations quantiques,
elles apparaissent à un moment, oui.
Hein, donc, je ne me trompe pas, et puis commencez pas à me contredire, c'est un monstre. Donc, non, ce que je veux dire en prenant cette illustration-là, c'est que dans vos romans, quand je dis que ça s'appuie sur des connaissances avérées, mais qui permettent justement d'extrapoler, d'aller plus loin, d'aller ailleurs, mais toujours en restant sur des choses quand même qui sont dans la réalité des choses, c'est important. Et j'ai découvert une chose, il me semble avoir appris découvert une chose chez vous dans ce roman-là, c'est que les sciences cognitives aussi vous intéressent. Les personnages, alors... nous font rentrer dans leur pensée pour que nous comprenions le sens de leurs gestes. Et ça, il ne me semblait pas l'avoir lu précédemment chez vous. Les sciences molles, ça vous intéresse aussi ?
Ah oui, elles ne sont pas forcément si molles que ça, déjà. Ah,
non, mais c'est comme ça qu'on les définit.
C'est ce que Catherine disait tout à l'heure. Hein, rentrer dans les pensées des personnages, c'est aussi un moyen de focaliser la caméra autrement. Mm-hmm. Et pour moi, comme j'ai beaucoup de personnages... Ça me permet aussi que le lecteur ne soit pas complètement perdu sur les différents comportements, les télescopages qu'il peut y avoir entre... Parce que ce qui est intéressant aussi dans ce roman, si on peut parler de science molle, c'est le fait que des personnages convaincus de la justesse de ce qu'ils font, et pas forcément, dans cette première partie, le commando n'a pas du tout l'intention de flinguer qui que ce soit, hein, malgré tout, peuvent être conduits à la violence par l'augmentation progressive, c'est comme la grenouille qu'on met dans une marmite et qu'on fait chauffer à feu doux, puis au moment ça finit par brûler. Et ça, c'est intéressant parce que il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon. Enfin, il y en a si, quelques-uns, il faut du décor quand même.
Il y en a au moins. Il y a des frappanins chez les mercenaires. Il y a quand même des psychopathes graves. Hein.
Mais je veux dire, c'est pareil, c'est les personnages avec des fêlures, ils sont pas tous entiers, ils ont pas forcément envie de tirer sur tout ce qui bouge tout le temps, quoi.
Alors, avant d'aborder une des dernières questions, est-ce que vous pourriez nous lire, alors comme Catherine l'a fait tout à l'heure, le début?
Je vais lire le début, qui est en fait juste avant le prologue.
Le pré-prologue, l'avant-prologue.
Le 5 mai 1697, la Viana do Castelo, frégate portugaise de 300 tonneaux, disparut en mer des Caraïbes par un temps exceptionnellement calme. Le voilier fut aperçu pour la dernière fois au large de Trinidad et Tobago. Il suivait son cap sans anomalie apparente. Il ne parvint jamais à Caracas. L'hypothèse d'un abordage par des pirates fut vite abandonnée car aucune épave, aucun débris, aucun corps ne fut jamais rejeté sur les côtes. Aucun indice de combat naval ne fut rapporté, même des années après. On sait pourtant que les pirates ne sont pas avares de vantardises quant à leur pillage et à leurs exploits. Des 45 hommes d'équipage de la frégate, de ses 12 canons, de sa cargaison d'esclaves, aucune trace ne subsista. Longtemps, dans les tavernes portuaires, les marins superstitieux évoquèrent à ce sujet les malédictions indigènes ou les calmars géants tapis dans les profondeurs de la fosse de Los Roques. On parlait à mots couverts, puis on exorcisait la peur en fumant la pipe, en buvant du vin ou de la mauvaise gnôle. La vérité était tout autre. Ni les pirates, ni les superstitions locales ne pouvaient rendre compte de la terrifiante réalité de ce qui s'était produit. Un événement hors du commun qui, plus de 3 siècles après, allait affecter de façon dramatique la vie et le destin d'un petit groupe d'hommes et de femmes.
Merci pour cette lecture. Alors, j'imaginais pas combien cette lecture légitimait la question que j'allais aborder. Dans ce roman, par moment, et là on l'entend bien, on pense très fort à Jules Verne. Les gentils de l'histoire font penser aux héros du Voyage au centre de la Terre. Y compris dans les dialogues, il y a, page 47, il y a un dialogue qui est Jules Vernien. Vous en dites quoi de cette référence ?
Ben que j'ai commencé à lire du Jules Verne, effectivement, quand j'étais petit. ça, c'est... Mais alors, la seule chose que je peux dire, c'est que Jules Verne m'a énormément appris de vocabulaire, notamment maritime. Et ça doit certainement m'influencer, ça, je ne vais pas m'en cacher. Hein. Mais je... Sauf quand je le fais exprès dans certaines nouvelles, j'essaye pas d'écrire du Jules Verne au départ.
Non, mais là, on l'entend bien. Là, on l'entend bien parce que sur cette île, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup pensé au Voyage au centre de la Terre. Hein. Les interactions entre les personnages, enfin, vraiment, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On parlait tout à l'heure donc de réalité, de fiction. Donc, j'imagine que l'étoile de Cornéphoros, avec un nom pareil, en fait. Ça, c'est une invention de votre part.
Pas du tout.
Comment ça ?
Pas du tout.
Ça existe, Cornéphoros, ça existe.
Il suffit de prendre la liste des étoiles qui ont un nom.
Il suffit de prendre la liste des étoiles qui ont un nom. Enfin, je fais ça tous les matins, moi. Je prends la liste des étoiles qui ont un nom.
Mais vous connaissez, je ne sais pas, Aldébaran, Antares, ça, c'est des noms connus. Mais il y en a d'autres quoi, qui sont moins connus.
Ah ben, Cornéphoros, c'est pas du tout connu.
Cornéphoros, c'est dans la constellation d'Hercule. C'est une des étoiles de la constellation d'Hercule. Et en général, les étoiles qui sont nommées, ça fait partie des plus brillantes, souvent. Donc c'est assez facile à trouver. Il n'y en a pas énormément de constellations, pas énormément d'étoiles brillantes. Voilà.
Donc Cornéphoros existe.
Cornéphoros, ça veut dire porteur de massue en grec.
D'accord.
C'est pour ça que c'est dans la constellation d'Hercule, d'ailleurs.
Alors, comme moi, je ne lis pas les noms des étoiles tous les matins.
J'essaie d'en trouver qui soit un peu original, ça change.
Pourquoi avoir choisi cette étoile ? Pourquoi celle-là particulièrement ?
Alors, pourquoi celle-là particulièrement ? Parce que je ne l'avais jamais citée avant dans aucun de mes romans. Et comme pour les prénoms de mes personnages, je me fais une liste des choses que j'ai utilisées pour essayer de varier un petit peu quand même.
Bon, ben voilà une excellente réponse. Eh ben écoutez, Patrice Véry, moi je vous remercie pour cette présentation de Caraïbes Force 15 qui est publiée aux éditions Voyelle. Et nous allons faire une deuxième pause musicale.
Je parle, pourquoi je me brise, dépit de mon pays, parole mon village. Nos pays casse-tête, mon palais trouve sommeil, longtemps Dunkerque comme la colère. J'ai troqué la vérité
À fleur d'oranger, je glisse ma confidence.
Tout pays casse-tête, mon palais trouve sommeil, longtemps Dunkerque comme la colère. Tout pays casse-tête, mon palais trouve sommeil, longtemps Dunkerque comme la colère. Aime ce que pour la paix, pour un bouquet d'immortel, pour un bouquet d'immortel. Nos pays casse-tête, nos pays casse-tête, mon palais trouve sommeil, longtemps d'un cœur comme la colère.
Impossible de ne pas à nouveau passer un titre du nouvel album de L'Audio, Feuilles Fauves. C'était La Colère, un titre qui ressemble parfaitement à ce groupe. Vous écoutez toujours Entre les Pages, et ce n'est que sur Radio G. Après avoir entendu Catherine Mallard et Patrice Véry, qui ne sont ni l'un ni l'autre des néophytes, essayons de comprendre pourquoi elles et ils écrivent, maintenant, depuis quand même quelques années. Je l'ai dit en introduction, vos livres paraissent en pleine promotion de la rentrée littéraire et, sans vous faire offense, on a plus parlé du livre de Kamel Daoud ou d'Amélie Nothomb que des vôtres. Désolé, vous n'avez pas encore percé le plafond de verre des médias. Alors, vous écrivez depuis quand ? Catherine Mallard, vous écrivez depuis quand ?
Alors, je ne peux pas dire moi une année très précise. J'ai toujours eu une pratique d'écriture au départ brève, plutôt de la poésie, et puis des fragments. Comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai eu l'occasion de... j'ai eu des commandes d'articles. Bon, là, c'était plus...
Et moi, je vous ai demandé une année, là. Hein.
Alors, une année, officiellement, 2010, enfin, première année de publication.
Première année de publication
pour ce qui est le monde des romans, nouvelles.
Le roman, quoi.
Voilà, hein? Le roman.
Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'avant, il y avait de l'écriture, mais voilà, la ça. Formalisation, 2010, 2010, donc 14 ans. Voilà. Et vous, Patrice Véry ?
Alors, moi, je peux dire que j'écris depuis que je sais lire.
Bien.
Déjà, quand j'étais petit, alors, je sais lire peut-être depuis 1959.
S'il ne nous rajeunit pas.
Voilà. Déjà, avec mon frère, on se racontait des histoires. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mis à les mettre sur papier, quoi, ou sous forme de petites bandes dessinées, ou sous forme d'écriture. Après, si on me demande depuis quand j'écris des histoires potables, alors là, c'est peut-être pas avant 1980. Après, des histoires publiables. Alors, la première, c'était une nouvelle aux éditions du Seuil en 2000. Et après, vraiment, des trucs, là où j'ai commencé vraiment à publier nouvelles et romans, c'est en 2011.
Donc, 14 ans aussi, à peu près, pour vous. On a entendu ça. Il y a l'écriture. Ça vient d'où, cette envie d'écrire, pour vous, Catherine ?
Moi, je dirais que l'écriture, c'est un accompagnement, pas permanent, mais... que je mets de deux côtés, à la fois du côté de la nécessité. C'est-à-dire que si je n'ai pas écrit pendant plusieurs jours, je me dis ah non, ça ne va pas, il faudrait que je reprenne un peu la plume là, ou l'ordinateur. Autour d'événements, que ce soit personnel ou pas d'ailleurs, ça peut être aussi une écriture de l'imaginaire. Beaucoup de carnets de voyage aussi. J'aime beaucoup cette pratique-là. Donc, je disais, écriture de la nécessité. Et puis, comme le ferait un musicien, une écriture de l'entraînement qui va plus convoquer les voix de l'improvisation, on dirait, en musique ou au théâtre. Mais là, l'improvisation, oui, elle est plus du côté du processus de recherche, de pénétrer un peu les voix de l'imaginaire.
Et vous, Patrice, l'envie d'écrire ?
Ben là, je vais encore remonter loin, parce que je pense que c'est à la base, après avoir lu un roman, avoir envie d'écrire quelque chose à partir des personnages de ce roman, mais de le transformer. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des fanfictions, quoi. Et puis, petit à petit, les choses aidant, devenir, avoir envie d'écrire ses propres scénarios. Et puis après, avoir envie de les partager. Donc, c'est pas un processus qui vient tout seul, mais qui doit être latent chez moi depuis le début, qui petit à petit s'est transformé en vraie écriture. Parce que, après, au début, on ne peut pas dire que c'était vraiment de l'écriture. J'avais des petits carnets sur lesquels je gribouillais sur deux pages d'infâmes petites nouvelles. Bon, c'est oui, pas mais non, heureusement pour mes lecteurs.
Alors, sauf que ce qui n'était pas de l'écriture, c'est quand même de l'écriture, puisque ça fabrique un terreau.
Oui.
Ça fabrique un terreau, parce que ce qui n'était pas d'écriture deviendra de l'écriture. On peut supposer.
Oui. Hein. Oui.
Quand vous écrivez, l'un et l'autre, est-ce que vous avez un lecteur dans la tête ou une cible ?
Alors, une cible, c'est un peu militaire, hein, là, ce que vous dites. Mais un lecteur, je crois que le premier lecteur, ça va être soi-même. Dès que je le peux,
mais,
moi, je...
Mais quand vous écrivez, ça veut dire que vous écrivez pour vous-même ? Non, vous écrivez pour quelqu'un.
Je ne pense pas à quelqu'un de précis. Je suis donc vraiment...
Vous écrivez.
Voilà, j'écris. Alors, il y a la voix intérieure, mais très vite, dès qu'une page est écrite, je vais l'oraliser. Hein, c'est vraiment la technique du gueuloir chère à Flaubert. Et à partir d'ailleurs de l'oralisation du texte, il va y avoir un travail sur le matériau même de l'écriture et du coup une évolution, une modification, une transformation. Mais je ne pense pas tout de suite au lecteur, mais après ça va venir. Ça va venir. C'est-à-dire, dès que le texte va être un peu plus élaboré, je vais commencer à réfléchir, alors je ne vais pas dire au message, mais cette page, ces pages sont traversées par quel axe, qu'est-ce que je veux dire là, qu'est-ce que je veux dire à qui, et quel va être aussi le destinataire. Parce qu'il y a...
On va y venir, ça. On va y venir. Pour vous, Patrice, est-ce qu'il y a un lecteur ou...
Non, pas du tout. En fait,
il y a de l'écriture.
Il y a de l'écriture et j'écris pour le lecteur qui me comprendra le mieux, c'est-à-dire moi.
Waouh.
Bah oui, parce que j'écris ce que j'ai envie de. En fait, j'écris ce que j'ai envie de lire. Et donc, je me fais plaisir. Et je pense que s'il n'y a pas de plaisir à l'écriture, le résultat peut pas être très bon. J'ai jamais réussi à me forcer. C'est pour ça que je suis très irrégulier dans l'écriture. Des fois, et puis ça finit par me retrotter dans la tête un truc qui est en cours. Il faut que je m'y remette. C'est pour ça que je parlais de la technique de l'autoroute là. Mais non, j'ai pas de. Je vise pas un public particulier. On me dit c'est pour la jeunesse. Je sais pas. Mais je précise que je ne me mets pas de barrière à l'écriture. J'écris pour moi. Et donc après, s'il y a des lecteurs qui aiment ça, tant mieux. C'est plus sympathique, quoi. Bien sûr.
Ça, je l'entends bien. Je l'entends bien, mais malgré tout, puisque l'un et l'autre, depuis pratiquement 14 ans, vous publiez, vous êtes publié. Alors, je ne vais pas dire vous publiez, mais vous êtes publié.
Oui.
Mais pour être publié, il a fallu vouloir être publié. Ça veut dire que le lecteur, il est entré dans la danse au moment où vous êtes publié. Ouais. Alors, c'est qui ce lecteur, Catherine Main ? Est-ce que vous pouvez me le décrire, votre lecteur ?
Alors,
celui qui est dans votre tête. Hein. Je ne parle pas du vrai lecteur. Hein.
Non,
je parle de celui qui est dans votre tête.
Alors, celui qui est dans ma tête, c'est un lecteur qui va chercher à ce que, à la fois, le propos soit clair, mais pas seulement, qu'il puisse y avoir aussi sujet, matière à réflexion, matière à éprouver des sensations, des émotions, donc je dirais une complexité d'ambiance, hein, le plus possible. Voilà, je vais peut-être reprendre la métaphore, je veux dire, de la musique. Ça a à voir, bon, j'ai fait pas mal de musique, moi, quand j'étais jeune, et ça a à voir avec quand même la construction d'une partition. Donc, il faut qu'elle sonne juste. La justesse, mm-hmm. je trouve que c'est important dans le travail de l'écriture.
Et vous, Patrice, quand voilà, vous avez écrit, il y a une pile de feuilles de papier ou une pile de fichiers informatiques, parce que j'imagine que pratiquant la science avec une détermination sans faille, c'est plutôt des fichiers informatiques.
Oui, oui. En effet.
Qu'il va falloir les envoyer, il faut les envoyer à un éditeur. Vous avez une image de ce lecteur à qui serait potentiellement destiné ce que vous avez écrit ?
Je pourrais cerner un peu sa personnalité. D'abord, c'est un lecteur qui doit être un peu joueur, parce que j'aime bien jouer avec le lecteur, donc j'espère qu'il aimera bien jouer avec moi. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai des intrigues à plusieurs couches, mm-hmm. et j'essaye d'être rigoureux dans les conclusions pour que ça ne paraisse pas trop tarabiscoté.
Capitalotracté.
Ensuite, c'est un lecteur qui doit être sensible, parce que moi, j'ai des personnages qui sont... je pense que je mets pas mal d'émotions quand même chez mes personnages.
Je
donc
peux le dire,
quelqu'un qui est capable de vraiment ressentir différents aspects, même si c'est deux personnages qui s'opposent, il doit être capable de rentrer dans l'esprit de chacun, d'où les italiques. Mm-hmm. Voilà, puis c'est, si je dirais peut-être c'est aussi quelqu'un qui aime le cinéma, parce que j'écris un peu comme je vois, donc j'écris un peu comme un film. Mm-hmm. Donc...
L'écriture voilà, visuelle.
Mais après, bienvenue aux autres.
Hein. Alors, vous écrivez tous les deux, vous êtes publiés tous les deux. Est-ce que ça ne fait pas peur, finalement, d'être publié ? C'est-à-dire que d'avoir l'orgueil ou la prétention de rivaliser avec d'autres, de voir ses écrits publiés, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude, une angoisse, un doute, une... Non ? Chez vous, Catherine ?
Quand vous dites rivaliser avec d'autres, moi, je ne le conçois pas comme ça. Je pense que c'est... D'abord, c'est une chance de réussir à se faire publier. Il y a beaucoup de gens qui l'espèrent vivement. Je dis aussi que le fait de ne pas réussir à être publié ne doit pas empêcher d'écrire et de continuer à écrire. Oui, moi, je le vis comme une chance, mais... Il y a toujours l'inquiétude de la façon dont le roman va être reçu, ça forcément. Hein, les premiers retours, je peux trembler un petit peu sur mes bases, mais ça ne m'empêche pas de continuer. C'est le côté excitant aussi de la publication.
Pour vous, Patrice ?
De toute façon, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est Asimov qui disait ça, si vous voulez publier un roman, d'abord écrivez-le et ensuite envoyez-le à un éditeur. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Mmh. Moi, j'ai connu beaucoup d'amis qui ont toujours cette crainte, cette fameuse crainte d'être lu, alors qu'ils écrivent à la fois pour être lu, mais ils en ont peur quand même. Mmh. Et
vous, là, vous venez de publier Caraïbes, donc on a compris Caraïbes Force 15, dont on a compris que ce n'était pas une histoire nouvelle. Hein,
oui.
Vous avez sorti ça d'un tiroir, refaçonné, réécrit, machin. Mais ce livre, il vient d'être publié, là, il vient de sortir. Ça fait quoi ? Enfin, vous dites comment, par exemple, vos copains d'imaginaire vont lire ce bouquin ?
Oui, il y en a qui vont le lire, puis on va en parler d'ailleurs sur l'émission Imaginaire,
oui.
je pense. Non, mais après, c'est ça, il ne faut pas avoir crainte d'être lu, et il ne faut pas avoir crainte que l'œuvre soit critiquée, parce que souvent, quand l'œuvre est critiquée, on a trop tendance à le prendre pour soi. Mm-hmm. Ce n'est pas l'écrivain qui est critiqué. Il peut avoir fait quelque chose qui n'est pas bon, ou que le lecteur n'aime pas. Moi, j'ai toujours revendiqué le droit au lecteur de ne pas aimer. Mm-hmm. Alors, il faut que ce soit un petit peu argumenté, parce qu'il ne faut pas simplement dire « Oh, c'est pas bon », mais il faut expliquer pourquoi on n'aime pas. Mais ça donne des débats intéressants. Voilà, c'est ça. Moi, je ne cherche pas du tout non plus à rivaliser avec les grands médias dont on parlait tout à l'heure, bien que nous ayons franchi le pas, puisque maintenant nous sommes tous les deux sur les médias.
Ah, la preuve, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou, quand même. Attendez, minimisez pas les choses, quand même.
Mais non, mais je crois que, bon, voilà, après, il y a toujours des niches un peu partout. Donc, si on regarde le roman policier, ça va être pareil. Il va y avoir des niches où des gens vont connaître parfaitement les auteurs de romans policiers, comme on l'a vu là, chez l'autre fois, aux 50 ans, je ne sais plus, de La Tête en Noir. Là. Et puis, d'autres, c'est la science-fiction. Moi, quand je vais dans des salons de science-fiction, je connais beaucoup d'auteurs. Un peu moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes et puis un peu moins de vieux. Mais...
Pour terminer ce petit échange, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture, ça serait lequel ? Catherine ?
de prendre un papier et un crayon et déjà de franchir la barrière de ses peurs, c'est-à-dire oser déposer quelques lignes, mais pas comme ça gratuitement, hein, souvent en lien avec... soit ça peut être avec une difficulté personnelle. Bon, moi, j'anime de temps en temps des ateliers au Centre oncologique de l'Ouest. Je travaille avec des participants dont certains n'ont jamais pris une plume de leur vie et qui vraiment découvrent qu'ils peuvent écrire de très, très belles choses et des choses très fortes.
Et vous, Patrice, si vous deviez donner un conseil en plus de celui du conseil d'Isaac Asimov que vous avez cité tout à l'heure, en bousillant ma transition.
Non, mais après, ce qu'on pourrait dire avant d'envoyer un éditeur, c'est relire son texte. Après tout, il y a des outils, même s'ils ne sont pas tous extraordinaires, qui permettent d'éviter d'envoyer un texte bourré de fautes ou de trucs comme ça. Et puis, dans la mesure du possible, le faire lire par quelqu'un qui ne soit ni de la famille ni des amis, qui souvent n'osent pas ou ne savent pas,
ne peuvent pas,
ou ne peuvent pas, mettre en évidence les choses qui ne vont pas.
Alors, on va dire les fragilités.
Voilà, les fragilités. Et il faut avoir le courage de recevoir ça sans fausse modestie ni quoi que ce soit. Dire, voilà, bon, il y a des erreurs, il y a quelqu'un qui me les fait remarquer, je retravaille ça. Ou alors dire, là, par contre, non, je l'ai fait exprès. Ou
j'y tiens.
Voilà, ou j'y tiens. Tout à fait.
Eh bien, je vais vous remercier tous les deux pour cette visite dans le studio de Radio G. C'est maintenant l'heure de la nouvelle chronique lue et approuvée. Si avec Patrice Véret, on a parlé de Jules Verne, Thierry Dupont va nous parler d'un autre grand de la littérature du 19e siècle. Eh bien, j'ai repris mon petit périple dans l'Anjou, dans le cœur de l'Anjou, pour cette chronique lue et approuvée. Aujourd'hui, je suis venu jusqu'à Mur-et-Rigné et j'ai en face de moi un monsieur. Bonjour.
Alors oui, je suis bien un monsieur, hein, Thierry Dupont.
Quelle est votre activité professionnelle ?
Je suis un passeur de livres.
C'est intéressant puisque le sujet de la chronique lue et approuvée, c'est de nous parler d'un livre. Alors, de quel livre vous allez nous parler ?
Alors, je ne suis pas sûr de faire preuve de beaucoup d'originalité. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas.
Ça parle de quoi, le Comte de Monte Cristo ?
Ah, ça parle de quoi ? D'une vengeance. D'une vengeance. Nous sommes en 1815, à Marseille. Un jeune homme, Edmond Dantès, va se marier avec Mercedes, la belle Mercedes, une catalane. Il est capitaine d'un navire, le Pharaon, qui arrive à Marseille, et beaucoup de gens lui veulent du mal, notamment deux, un qui évidemment a envie de sa belle Mercedes, un autre qui aimerait bien son poste de capitaine, et il va se passer une chose incroyable, une machination de ces hommes qui conduira Edmond Dantès en prison, au château d'If, au large de Marseille. Il y passera 14 années, en sortira, riche d'ailleurs, je ne peux pas tout raconter tout de suite j'imagine, riche, et il essaiera de se venger, mais pas que.
C'est une histoire de vengeance. On ne va pas apprendre beaucoup de choses aux personnes qui écoutent cette émission parce que le Comte de Monte Cristo a fait la une au niveau du cinéma. Le Comte de Monte Cristo, c'est de qui ?
C'est d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas qui, avec ce livre d'ailleurs, devient sans doute l'auteur le plus lu en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays.
Alors, pourquoi le Comte de Monte Cristo ?
Pourquoi j'ai choisi ? En fait, alors évidemment, je suis bibliothécaire, un passeur de livres. J'ai lu des centaines de livres, j'ai adoré des centaines d'auteurs, j'en adorerai encore des centaines. Pourquoi celui-là ? Simplement parce que c'est le premier. C'est celui qui a tout déclenché. J'ai 10 ans, je rentre au collège, et en fait, je lis ce Comte de Monte Cristo en version intégrale, grâce à un professeur de français, que je vais citer d'ailleurs, Monsieur Boursier de Segré, qui était un homme extraordinaire, qui a dû sentir en moi un petit gars qui aimait les lettres. Et il ne s'est pas trompé, j'ai dévoré les 1500 pages sous mes draps, à la lueur d'une lampe de poche vacillante, en me faisant régulièrement engueuler par mes parents, bien sûr, parce que je lisais très tard. Et voilà, En lisant ce bouquin très très vite, j'ai compris qu'il se passait quelque chose dans les livres, qu'on pouvait y apprendre le monde, en fait, tout simplement, le monde et les gens. J'ai adoré ça. Et 50 ans après, ça reste évidemment un livre très cher à mes yeux.
Est-ce qu'il y a eu une relecture ?
Oui. il y a eu une deuxième relecture qui a été partielle, parce que comme toutes les choses qu'on a tellement adorées, enfin, moi je fonctionne comme ça, j'ose pas le lire vraiment entièrement, donc j'ai lu des petits morceaux, j'ai lu des petits bouts que j'ai trouvés extraordinaires, mais je ne l'ai jamais relu en entier une deuxième fois. Ce que je ferais peut-être.
S'il devait y avoir un souvenir de cette première lecture, ce serait lequel ?
Ouais, là c'est extrêmement compliqué parce qu'il y en a plein, j'ai plein d'images. Alors s'il ne devait vraiment y en avoir qu'une, c'est peut-être l'abbé Faria, la rencontre avec l'abbé Faria au château d'If. Donc il creuse les murs, il arrive dans la cellule de l'abbé Faria, et l'abbé Faria lui explique tout, lui raconte tout, et il comprend comment il s'est fait manipuler, et en plus il lui offre une seconde vie puisqu'il lui offre un trésor. C'est une rencontre extraordinaire. Ouais.
Alors il y a une partie de divulgachage dans cette intervention, mais ça c'est pas grave. S'il fallait conseiller aux gens de lire ce livre monumental, puisqu'il fait plus de 1500 pages, s'il fallait conseiller de lire ce livre, quel serait le conseil ?
Le conseil de ne pas être effrayé par les 1500 pages, on n'a plus l'habitude aujourd'hui de lire 1500 pages. C'est le premier conseil du bibliothécaire, c'est que les gens déjà ont peur des 500 pages. Alors 1500, c'est de ne pas s'imaginer que c'est compliqué à lire. C'est de le voir comme un chemin et de suivre son chemin. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement plein de rebondissements qu'à aucun moment on ne s'ennuie. Pour moi, c'est un des meilleurs thrillers. Hein. Le mot n'est pas français, mais c'est un des meilleurs thrillers qui n'ait jamais été écrit. Donc il se passe des choses, je ne sais pas, toutes les 10 pages, toutes les 20 pages. Et on y voit l'humanité, quoi, telle qu'elle est encore aujourd'hui.
On rappelle le titre et l'auteur ?
Oui, donc c'est Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas.
Merci Thierry Dupont.
Eh bien, à nouveau, merci pour cette proposition. Elle peut sembler dans l'air du temps, mais avec vous, ce n'est pas le cas. Vous avez joué le jeu de cette chronique. Et pour ce qui me concerne, j'approuve ce choix qui est, il faut bien le dire, intemporel. Allez, passons maintenant à l'agenda. Le jeudi 14 novembre, à 20h, au musée Jean Lursa, table ronde sur le thème « Écrire l'Apocalypse », synthèse des 5 résidences d'auteurs organisées par la ville d'Angers. Le 18 novembre prochain, à 19h30, à la mystérieuse librairie Nuit Bleue à Angers, rencontre avec un membre des éditions Seita con Bravas, autour de la somme, parce que c'est vraiment une somme, Squat et Pirate. Une compilation d'articles et d'interviews racontant des occupations illégales de bâtiments vides. Dans une époque où le mal-logement est roi, cela peut faire réfléchir. Et le 20 novembre, à 20h, toujours au musée Jean Lursa, une rencontre avec Alban Gelé et un médiateur autour d'une œuvre contemporaine. Et ça, c'est organisé par les musées d'Angers et la Miel 49. Et puis, comment ne pas annoncer la sortie du numéro d'hiver de la très excellente revue Dissonance. Cette fois, le thème, c'est « Après l'orage », avec des photos plus que magnifiques de Cédric Merlan. Au cours de l'émission, vous avez entendu « Cœur au diable », tout nouveau titre de Michel et les garçons, et « La colère » de Lodjo, extrait de l'album « Feuilles fauves ». Eux, les Lodjo, seront en concert au Grand Théâtre d'Angers ce vendredi 8 novembre. Ne les manquez pas, il y a certainement plus de place, donc c'est trop tard. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 20 novembre à 17h. On parlera architecture et littérature. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant,
in 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.